La semaine aura été marquée par la tragique et sanglante prise d'otage sur le site gazier de Tighentourine à In Amenas en Algérie. Le groupe terroriste, les signataires par le sang et leur chef, Mokhtar Belmokhtar, n'ont pas agi au hasard. Ces terroristes, se réclamant d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, ont visé l'un des principaux sites gaziers du pays qui produit chaque année 9 milliards de mètres cubes de gaz, soit 15 à 20% de la production nationale, détenue à moitié par Sonatrach, compagnie d'État algérienne, et par BP, compagnie anglaise, et Statoil, société norvégienne. Ce site est hautement symbolique. En s'y attaquant, le commando défiait l'État algérien. C'est ce que nous expliquait Francis Perrin, président de Stratégie et Politique Énergétique.
Lorsqu'une production est arrêtée pendant quelques jours, l'impact économique pour le pays concerné n'est pas très important. Ce qui, sur le plan économique et énergétique, serait important, c'est si ce commando terroriste avait infligé à ce site des dommages considérables et qu'il fallait des mois de réparation pour le remettre en route. Si la fermeture n'est que de quelques jours, évidemment, ce n'est pas quelque chose qui pèsera beaucoup en termes de recettes pour le commerce extérieur de l'Algérie, mais ce site est effectivement d'une importance tout à fait considérable pour le pays.
Dans les années 1990, la population algérienne a été marquée par une décennie noire pendant laquelle le gouvernement s'opposa aux groupes islamistes. Un conflit qui fit plus de 60 000 morts. Comment cette population éprouvée par le terrorisme islamique perçoit-elle l'action de ses ravisseurs armés en guerre contre les étrangers? Le père blanc Jean Heuft vit en Algérie depuis 43 ans. Il nous confiait l'état d'esprit de la population algérienne.
Aujourd'hui, nous sommes arrivés à un stade où les gens ont bien compris qu'il faudrait séparer la religion et l'État. Bien que les gens sont profondément religieux, ils sont très prudents. Donc, ils ne veulent plus se lancer dans les terrorismes ni faire confiance à des terroristes. Et je pense, aujourd'hui, nous ne trouvons plus personne pour terroriser la population, sauf les groupes dans des endroits vraiment très isolés, qu'ils essaient quand même de manipuler différentes personnes à l'intérieur du pouvoir ou à l'intérieur de l'État algérien. Mais je ne pense pas qu'aujourd'hui nous pouvons retourner dans un État islamiste comme avant.
Les sondages se sont trompés cette semaine en Israël. Ils prédisaient une victoire massive de la droite aux élections législatives et un triomphe pour le Premier ministre Benjamin Netanyahou. Si ce dernier conservera le pouvoir, il va devoir constituer un gouvernement de coalition. Sa liste, Likoud Beitenu, n'obtient que 31 sièges sur 120. Mais surtout, un homme et un parti ont créé la surprise en raflant 19 sièges. Yesh Atit, il y a un avenir en hébreu. C'est le parti de la classe moyenne de Yair Lapid. Frédéric Ancel, spécialiste d'Israël et maître de conférences à Sciences Po Paris, décryptait pour nous ces élections, pas comme les autres.
Je ne pense pas qu'on soit sur quelque chose de révolutionnaire. Netanyahou n'a pas fait un bon score, mais en réalité, lorsque vous regardez les scores des premiers ministres israéliens ces dernières décennies, ils ne triomphent jamais. Ils arrivent toujours ric-rac à obtenir une majorité. Ensuite, la coalition, elle sera composite, comme toute coalition en Israël depuis 1948. Hein. Il y a une centrisation et non pas une droite ou une extrême droitisation de la vie politique israélienne.
22 janvier 1963, 22 janvier 2013, 50 ans que l'Allemagne et la France ont troqué leur rôle d'ennemi héréditaire pour celui de moteur de la construction européenne. Ces deux pays, de 1870 à 1945, se sont affrontés au cours de trois conflits, dont deux mondiaux, avec son lot de morts, de blessés, d'humiliations et d'occupations. Cette réconciliation, qui paraissait impossible, tant le fossé de victimes et de souvenirs douloureux les séparant était grand, nous la devons à deux hommes, le président français Charles de Gaulle et le chancelier allemand Konrad Adenauer. Ils l'ont scellée par le traité de l'Élysée, mettant l'accent sur trois domaines de collaboration prioritaires, la gouvernance et la politique étrangère, la défense et l'aide au développement, l'éducation et la culture. Pour nous en parler, Klaus-Peter Sick, historien allemand au centre Marc Bloch à Berlin.
Le traité est surtout un traité politique. Il est beaucoup moins économique et beaucoup moins culturel qu'on ne le pense. C'est vraiment un symbole de la réconciliation. Et c'est qu'il a apporté très concrètement un calendrier de consultation politique très précise entre les sommets politiques des deux États. Le grand résultat finalement, c'est que les deux côtés acceptent l'importance d'un dialogue ininterrompu et régulier, qui d'ailleurs n'a jamais été interrompu malgré toutes les difficultés depuis.
Cette semaine, nous n'avons pas oublié la Syrie. Chaque jour qui passe apporte son lot de morts, parmi lesquels des enfants. L'UNICEF a publié un communiqué pour condamner les récentes attaques qui ont causé la mort de dizaines d'enfants et pour appeler les belligérants à tout faire pour épargner leur vie. Au-delà de la condamnation de ces morts, l'UNICEF tente de venir en aide en Syrie ou dans les pays voisins à ses enfants en menant toute une panoplie d'actions, à l'image de ce qu'elle fait dans d'autres pays dans le cadre de conflits. Il y a environ 2 millions d'enfants qui souffrent en Syrie et environ 300 000 réfugiés à l'étranger, estimé Charbel Rafi sur notre antenne. Il est spécialiste de la communication pour le bureau régional Proche-Orient et Afrique du Nord de l'UNICEF.
On est en train d'organiser des sessions pour aider ces enfants à surmonter les troubles qu'ils ont vécus. Il y a une campagne de vaccination qui a pris lieu à l'intérieur de la Syrie et aussi dans les camps de réfugiés des pays voisins. Sur un autre côté, il faudra aussi mentionner les activités éducatives et scolaires. L'UNICEF a initié des activités scolaires dans les camps des réfugiés. Donc on a installé des écoles avec nos partenaires. Et on insiste à ce que les enfants syriens puissent continuer leur éducation comme prévu et comme chaque autre enfant dans n'importe quel coin dans le monde.